Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et content de vous retrouver en direct sur RMC, RMC Story pour discuter, pour débattre, c'est l'ADN des GG en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui, à tes côtés d'abord, Barbara Lefebvre qui est professeure d'histoire-géographie. Bonjour ma chère Barbara.
Bonjour à tous.
Tu ne seras pas ministre Barbara.
Non, allez donc.
Non, c'est important de le préciser ce matin.
Tu peux refuser d'être ministre, c'est la mode.
Écoutez, je refuse car je vais me sentir humiliée comme monsieur Bayrou et j'ai décidé de décliner l'offre. On m'a proposé aussi le ministère des Armées et là, ils ont eu encore plus peur parce que là, effectivement, il y aurait eu de quoi avoir peur.
Qui a refusé d'être ministre aussi? Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Bonjour.
Bonjour à tous. Non, j'ai pas refusé. Je vais juste dire bonjour, moi, à Québec, à qui j'ai discuté dans la rue dimanche, et à mon facteur d'Anières qui vous regarde tous les jours.
Nous sommes avec Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, l'homme de Dunkerque.
Tu veux être ministre, Antoine?
Vas-y, je suis toujours prêt à être ministre. D'accord. Si on peut être utile.
Le message est passé. Gabriel Attal.
Le téléphone est allumé.
Nous écoute. Visiblement, comme le remaniement n'est toujours pas là, il peut nommer Antoine Diers.
Oui, voilà. Je suis pas sûr.
En même temps, il y a un virage à droite.
Je peux incarner le virage à droite.
Voilà.
Un petit salut à Sofiane, chauffeur VTC que j'ai croisé hier, avec qui on a parlé des GG et qui fait partie de ces Français qui bossent, qui aimerait qu'on lui foute la paix, il aimerait être en sécurité, il est courtier d'assurance la journée, il est VTC la nuit, Stéphane, je sais qu'il apprécie notamment beaucoup Barbara Lefebvre.
Donc on
lui passe le bonjour. De quoi va-t-on discuter aujourd'hui dans les GG? Il va y avoir matière. Alors le refus de François Bayrou, est-ce que c'est un camouflet pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la fuite des données? Là, vous avez eu 33 millions de Français de comptes de données qui ont été piratés. En attendant, tiens, parlons justement politique, parlons de l'Élysée et d'une Marine Le Pen qui, au deuxième tour, apparaît gagnante dans tous les cas de figure.
RMC, les grandes gueules.
Marine Le Pen à l'Élysée, est-ce que vous y croyez? Plus que jamais, en tout cas, si l'on se fie au sondage Valeurs Actuelles.
Oui, c'est un sondage grande gueule, le sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, parce qu'habituellement, on ne sonde pas le deuxième tour, on sonde que le premier tour. Et là, IFOP a sondé le deuxième tour. Donc si on votait pour la présidentielle, Marine Le Pen déjà ferait un très beau score au premier tour, 36% des voix, ça serait un record. Et quel que soit le candidat macroniste en lice, et puis au second tour, elle l'emporterait face à Gabriel Attal, 51 contre 49, et elle ferait jeu égal face à Edouard Philippe. Ils ont même sondé Marine Le Pen-Mélenchon. Enfin, a priori, c'est un scénario qui n'est pas aujourd'hui possible. Mais alors là, si c'était Marine Le Pen-Mélenchon, Mélenchon serait écrasé, il ne ferait que 36% des voix au second tour. Bref, donc ça confirme que Marine Le Pen avant poupe, elle devient la favorite de cette présidentielle. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour elle, parce qu'en général, les favoris n'arrivent pas finalement à gagner, mais en France. Mais en tout cas, est-ce que ça vous surprend? Et je précise aussi que si on additionne le bloc national au premier tour, composé de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, ça représente environ 45% des voix dès le premier tour. Donc il y a un réservoir de voix désormais pour Marine Le Pen pour gagner la présidentielle.
Marine Le Pen gagnante en 2027. Marine Le Pen à l'Élysée, vous y croyez? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. C'est vous bien sûr qui prenez la parole, Antoine Diers?
Ouais, moi je pense que les Français ouvrent les yeux. C'est-à-dire que on a eu Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. C'était un choix par défaut parce qu'on avait bourré le crâne des Français en disant non, il faut surtout pas le Rassemblement National. On a vu les législatives après en 2022 qui ont bien montré que le choix d'Emmanuel Macron était un choix par défaut. Et pour 2027, après Emmanuel Macron, on nous annonce des avatars de Macron. Attal, Darmanin, la même chose. Je pense que cette fois-ci, les Français ne vont plus se laisser avoir. Et les Français remarquent enfin que Marine Le Pen et le Rassemblement National font les bons constats depuis des années. sur l'immigration, sur la crise agricole. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, on aurait évité bien des difficultés sur l'Union européenne. Eh bien, moi, je pense
qu'il n'y aura pas de Front républicain pour empêcher Marine Le Pen.
Exactement.
Mais voilà. c'est un vote d'adhésion. Alors,
c'est un vote d'adhésion. Les sondages le montrent. On voit aussi des catégories qui jusqu'alors ne votaient pas pour le Rassemblement national commencer à voter pour le Rassemblement national, les classes moyennes supérieures, etc. Et je pense, moi, qu'on va assister dans les prochains mois à une montée en puissance de ce résultat de Marine Le Pen. Alors, c'est une immense responsabilité pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ils s'engagent dans un marathon. Il va falloir tenir la distance, réussir à s'ouvrir encore à toujours plus de Français pour l'emporter.
Bruno Poncet.
Ben je me dis que le travail qui a été commencé sous Mitterrand, le fait de normaliser le Front National ou de leur donner, d'ouvrir les portes.
Il y a longtemps, alors.
Bah ouais, mais ça a commencé comme ça. Rappelle-toi, c'est Mitterrand qui lui donnait l'accès à la télé à Le Pen, alors que au départ, il pesait que dalle. Bah voilà, ça marche. Aujourd'hui, maintenant, la plupart des hommes politiques se servent du Front National pour les avoir en face d'eux, pour être élus. Sauf que la bête leur échappe. Et aujourd'hui, la bête, elle va à risque de passer toute seule. Et peu importe
ce qu'ils font en face d'elle. Donc ça ne surprend pas, ce sondage?
Ah bah non, mais tout est fait pour, en fait. Tout est normalisé. Aujourd'hui, tu leur parles normalement. Tu leur fais la bise à des commémorations. Enfin, tout va bien, en fait. Tout est normal. Et moi, je me dis que.
Il y a quand même, les Français, c'est pas aujourd'hui François Mitterrand qui les fait choisir Marine Le Pen. Il y a des raisons à cela. D'ailleurs, c'est intéressant. On voit que la France est fracturée en deux. C'est-à-dire que la France qui gagne plus de 2 500 euros vote majoritairement pour un candidat macroniste, hein, c'est ce que montre le sondage, et la France qui est en dessous de 2 500 euros vote majoritairement Marine Le Pen. La France qui vit dans les grandes métropoles vote Macron majoritairement, la France qui vit en dehors de ces grandes métropoles vote Marine Le Pen. Et en fait, le nouveau clivage, il est là, c'est-à-dire qu'il y a un clivage droite nationale incarné par Marine Le Pen, et puis on va dire le centre incarné par Macron.
Mais après le sujet, enfin t'as raison sur un peu la typographie, mais le sujet c'est qu'aujourd'hui si tu regardes depuis mi-temps et l'exemple, c'est enfin je trouve que c'est le meilleur exemple, les gens qui ont voté pour quelqu'un, ils ont toujours été trahis par la personne pour qui ils ont voté. Enfin moi je sais pas, moi on peut estimer que je suis de gauche, mais moi je le serai jamais parce que la gauche a toujours trahi cette gauche-là en tout cas. Mais Hollande, moi c'est le meilleur exemple que j'ai. La finance est son ennemi et derrière la finance devient son meilleur ami dès qu'il est élu. Donc en fait les gens se sentent trahis. Et moi quand je parle avec des amis à moi qui n'auraient jamais voté Le Pen, me disent bah ouais mais regarde les autres sont fait pire.
On a pas encore essayé, c'est ça.
Bah ouais, puis alors ça lui a encore essayé. Il y en a qui freinent un peu, mais c'est surtout qui disent bah regarde les autres nous ont tous trahis. Donc en fait c'est ça qui est inquiétant. Par contre moi je me dis qu'on a encore une chance d'échapper à elle, c'est que dès qu'il y aura un débat, parce qu'elle est tellement pas douée à chaque débat que je pense que dès qu'elle va parler ça va être réglé son problème, je pense.
Oui, je pense quand même que bon, la question du second tour n'est pas très significative. Ce qui est très intéressant, c'est sa progression dans les premiers tours. C'est-à-dire que les sondages qui sont faits, les simulations de sondages qui sont faites depuis 2022, à chaque crise, Marine Le Pen, au premier tour, monte dans les sondages. Après la réforme des retraites, elle est montée dans les sondages, dans les projets de premier tour. Ensuite, il y a eu les émeutes. Après l'été des émeutes, elle avait pris en septembre 2023, elle avait pris encore, elle était quasiment à 29%, je crois, d'intention de vote au premier tour. Après la loi immigration, elle est montée à 31%. Et là, après la crise agricole, après aussi le positionnement irréprochable du Rassemblement national après le 7 octobre, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, on a vu à quel point ça pouvait fracturer la classe politique française. Et donc, on voit d'ailleurs que l'effondrement de Mélenchon est profondément lié à son virage islamo-gauchiste, c'est-à-dire que les masques sont bien tombés. Et je pense qu'il y a une partie des électeurs de LFI qui sont partis, qui ont déserté LFI. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont rabattus sur le RN, mais voilà. Et là, elle arrive à 36%. Donc, pour l'instant, Marine Le Pen fait un sans faute parce que, à la fois, les crises que traverse la France viennent conforter le discours qu'elle tient sur ces crises. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'elle a les solutions et quand elle sera au pouvoir, elle va tout régler. Je dis qu'en tout cas, les diagnostics qu'elle porte et les solutions qu'elle propose, qui sont relativement simples, entendues et répétées, parce que ce n'est pas des choses qu'elle invente à chaque fois, c'est des choses qu'elle répète depuis une dizaine d'années, depuis qu'elle a vraiment pris le leadership sur le Rassemblement national. Et par ailleurs, il y a eu ce tournant que les Français ont voulu, qui est celui des législatives. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou
avec
pas,
89 députés,
il y a 89 députés, ça veut dire une visibilité pour le Rassemblement national, et je suis désolée, là aussi, il n'y a pas photo. Quand vous comparez LFI, qui a réussi à mettre un grand nombre de députés à l'Assemblée, qui, avec la NUPES, formait le premier groupe d'opposition, le RN étant le premier parti d'opposition, on avait un match sous nos yeux, LFI, comportement de LFI, comportement du Rassemblement National. Bah, excusez-moi, ceux qui se tiennent de façon digne et républicaine, c'est les députés du RN. Et ceux qui se sont comportés comme des gougnafiers à l'Assemblée nationale, qui ont gâché tout leur capital, qui pouvait être un capital sympathie du peuple de gauche, c'est LFI. Sans parler, évidemment, de la trahison suprême, puisqu'ils sont tombés dans le camp du totalitarisme depuis le 7 octobre. Pas tous, mais une grande partie. Donc, excusez-moi, mais eux se sont disqualifiés. Ils ont en plus entraîné la gauche et le Parti socialiste dans leur néant. Voilà, parce que le PS, il est aux fraises de chez les fraises. Et puis, bah, le LR, les LR, ils sont de toute façon progressivement mités, absorbés. Je veux dire, la prise de Rachida Dati, c'est un dernier coup de couteau dans LR.
Bah là, ils sont effacés.
Oui, là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Olivier, il y a deux blocs. Il y a le bloc macroniste de droite, molle, de la jupéiste et compagnie. Là.
Centre-droit.
Voilà, centre-droit, etc. Soi-disant social-démocrate.
Le bloc, comment
couille
molle.
Voilà, un peu. Et de l'autre côté, il y a la droite populaire. Et cette droite populaire, c'est l'ex-RPR, etc. Bah oui, c'est Marine Le Pen. Je pense qu'à terme...
Et la gauche ne représente plus grand-chose.
Non, mais à terme...
Mélenchon ne fait que 14%
au premier tour.
À terme, les derniers LR, à terme, les derniers LR-RPR rejoindront le Rassemblement National. Je veux dire, si demain le RN gagne, les LR, ils viendront à la soupe, hein, là
partie,
où, là, mais bien sûr. Et puis, pareil, quelques
partie,
zémouristes viendront à la soupe, même si Éric Zemmour, peut-être pas, parce qu'il a tellement d'ego qu'il ira jamais vers Marine Le Pen, qu'il déteste. Mais je pense que d'autres ouvriront les yeux. Et les Nicolas Bay et compagnie, les traîtres de la première heure.
Au bercail.
Bah, par contre, je pense que Marine. Oui, mais Marine Le Pen est un petit peu rancunière sur les grandes trahisons. Donc, je pense que les Nicolas Bay et compagnie, ils vont rester où ils sont.
Alors.
Après, c'est un sondage qui intervient post-crise agricole.
Oui, bien sûr. Bon. Et surtout, l'élection est dans très longtemps.
Et l'élection est pareil, effectivement, dans 3 ans et demi. Donc, il faut se calmer. Parce que dans 3 ans et demi, personne ici autour de la table n'est capable de dire quelle sera la situation du pays.
On a quand même un truc, c'est les élections européennes, là, en juin, dans 4-5 mois.
La fois, c'est les écolos qui ont gagné, on a vu le résultat.
Mais là, ces élections européennes qui sont très souvent inutiles, très souvent défouloirs, peuvent être pour le RN un moyen de montrer sa puissance et de s'imposer et de lancer pour moi au moment des élections européennes une longue marche jusqu'à l'élection présidentielle. Et donc je crois qu'il va falloir faire un appel assez fort à tous ceux qui veulent changer les choses d'avoir un vote utile au moment de l'élection européenne, donner des voix massivement au Rassemblement National en juin prochain, ce sera pour engager la longue marche jusqu'à l'élection présidentielle.
C'est bien, pendant des années, c'est les gens d'extrême droite expliquaient que ça servait à rien les européennes et que de toute façon c'était que de la merde. Et puis maintenant, ça va devenir les élections de l'année. Tu vois, c'est ça qui est assez drôle.
Bah là, pour le coup, la situation
c'est
politique,
bien.
C'est
allez,
ça.
Ce
sera le vrai sondage.
Gabriel Attal a été nommé.
D'où vient le vent ?
Ce sera le vrai sondage. Gabriel Attal a été nommé à Matignon justement pour essayer de réduire l'écart entre la jeune Attal et la Renaissance.
Mais par contre, moi, je pense que ce sondage-là peut aider la gauche. En tout cas, c'est à peut-être faire le ménage.
À réfléchir.
Non, et puis à faire le ménage peut-être et à dire à papy de partir.
Papy, c'est Mélenchon.
Ouais, de lui dire, bah, écoute, t'es bien quand t'es au-dessus et quand t'es pas dans la masse, t'es bien quand t'es au-dessus. Vous recevez Ruffin demain. Moi, je pense que Ruffin peut être une solution intelligente. Et il parle à beaucoup de gens de droite aussi.
Ouais.
Parce qu'il parle bien. Et puis il sait de quoi il parle. Parce que chaque fois qu'il parle, il parle de ses dossiers. Et je pense que c'est peut-être le moment pour cette gauche-là qui voudrait un peu de renouveau et qui en a peut-être marre de Mélenchon parce qu'à force d'attirer les braises, ben, malheureusement, il est en train de mettre le feu partout.
D'ailleurs, la stratégie de Mélenchon est en échec, c'est ce que ce sondage montre.
Lui, pensait que c'était le chaos.
Parce qu'il est persuadé d'être le rempart à Marine Le Pen. Il dit souvent d'ailleurs en privé que s'il se retrouvait au second tour face à Marine Le Pen, il y aurait quand même un réflexe républicain qui lui profiterait. Et on voit que quand l'IFOP sonde l'hypothèse, pour l'instant improbable, d'un second tour Mélenchon-Le Pen, il ne fait que 36%. Donc seulement il n'y a pas de front républicain, mais il est balayé.
On va déjà en parler avec Romain, qui nous appelle de Paris. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tous.
Alors c'est vrai qu'on est à 3 ans du scrutin, mais là, Marine Le Pen à l'Élysée, qu'en dites-vous ? Alors, vous y croyez ?
Ben, moi, j'y crois, et puis j'espère. Et puis, effectivement, Le Pen, je crois qu'elle est plus toute seule aujourd'hui. Elle a quand même des gens de qualité autour d'elle. En toute honnêteté, je pense que si on ferme les yeux et qu'on se dit à soi-même, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils disent et avec ce que Jordan Bardella disent ? Je pense que si les gens font preuve d'honnêteté, effectivement, ils sont OK sur leur diagnostic. On les trouve plutôt pros. Et puis après, je veux dire, si Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Édouard Philippe ne veulent pas de ça, ils ont qu'à être bons. ils ont qu'à être bons. Et leur ennemi, ça doit pas être systématiquement de dire le RN, je suis le RN. Non, leur ennemi, ça doit être l'indélinquance. Leur ennemi, ça doit être l'impunité. Et ainsi de suite. Mais ils ne comprennent pas, ils sont toujours dans cet aveuglement. Et moi, j'ai toujours, avant, je votais toujours à droite. Et ça fait maintenant, depuis la dernière élection où je vote pour l'Assemblée nationale.
Vous votiez traditionnellement républicain, Sarkozy, c'est ça?
Moi, d'accord. J'ai fait, voilà, Chirac, Sarkozy, Fillon, voilà.
Donc pour vous, là, la droite, c'est Le Pen maintenant?
Les amis de Monsieur Poncelet, là. Donc voilà.
Non, mais pour vous, la droite, c'est Le Pen maintenant?
Il a voté mes amis?
Alors pour moi, oui, pour moi, il n'y a plus de droite. De toute façon, c'est clair.
Donc la droite, c'est Le Pen.
Ouais, et puis de toute façon, quand elle va monter en puissance, vous savez, il y a beaucoup de gens de droite qui ont des qualités, qui vont la retrouver en disant, ah, mais on sera peut-être plus utile à l'intérieur. On va essayer de faire vivre nos idées et ainsi de suite. Et puis il y a une chose aussi qui l'a fait monter et qui n'arrête pas de la faire monter, c'est la réalité. C'est-à-dire que sur plein de sujets, on voyait des choses, on entendait des choses il y a 30 ans. On en voyait quelques-unes il y a 20 ans, mais depuis 10 ans, on les vit au quotidien. Moi, j'habite à Paris, et mon seul rapport que j'ai avec les hommes politiques, donc c'est-à-dire avec la maire de Paris et avec Monsieur Macron, mais je peux pas, moi, je les trouve totalement incompétents et à l'opposé de ma réalité, si vous voulez. Quand j'entends Emmanuel Macron qui parle des émeutes en disant que les gamins, c'est des gamins de famille monoparentale qui partent pas à la mère, ainsi de suite, oh, vous foutez de ma gueule? Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans, j'ai été élevé qu'avec mon père, j'ai jamais eu l'idée d'aller brûler une gendarmerie. Donc c'est fini. Ça, c'est fini. Je ne l'accepte plus. Leur aveuglement, leur hypocrisie, je n'en veux plus. Et en plus, c'est un vote de cohésion. Je suis d'accord avec ce que dit le Rassemblement National et je trouve qu'il y a des personnes vraiment de qualité autour de Marine Le Pen. Donc pour moi, c'est clair et j'ai vraiment des fourmis dans les jambes.
Vous avez hâte d'y être, quoi, en fait, ouais, Romain. Romain, je vous remercie. Voilà, Romain, électeur traditionnel de droite qui aujourd'hui dit, la vraie droite, je sais où elle est. Les Républicains et autres, maintenant, c'est fini. C'est le Rassemblement National. Merci, Romain, d'avoir été avec
vous,
nous.
Bonne journée.
Bonne journée, d'avoir exposé vos arguments. Dans un instant, Johan. Johan, il estime qu'on fantasme trop les sondages, en fait. Et il veut en parler directement avec Antoine Diers. Marine Le Pen en 2027, elle est donnée gagnante par le sondage Valeurs Actuelles. À tout de suite au 32-16.
RMC,
9h midi,
les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, Marine Le Pen à l'Elysée, c'est ce que révèle le sondage Valeurs Actuelles, le sondage IFOP Fiducial. Johan veut en parler avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Vous dites attention, méfions-nous des sondages, fantasmons pas, quoi.
Oui, alors moi, en fait, je suis assez pragmatique, donc je regarde un petit peu ce qui se passe. Et chaque année, c'est vrai que quand il y a des sondages comme ça qui arrivent, on remet le couvert sur, l'arrivée du RN, le fait que Marine Le Pen a ses chances, etc. Mmh. Et que les Français, j'entendais même Antoine Diers dire que les Français avaient ouvert les yeux. Ce genre de réflexion, je trouve toujours, ça me fait toujours sourire parce que je pense que tout le monde est assez grand pour prendre ses choix quelque part. Donc j'ai le coup de ils ont enfin ouvert les yeux. Enfin, on verra au moment des urnes, hein, concrètement ce qui se passera réellement. Mais en fait, moi ce que je veux dire simplement, c'est que qu'il y ait une montée du RN, je pense que ça c'est indéniable. Il y a une progression en tout cas du RN depuis quelques années, ça se voit. Ne serait-ce qu'effectivement dans les élections, hein, concrètement. Maintenant, le point où je suis pas d'accord, c'est déjà quand on parle de Marine Le Pen. Pour moi, enfin très clairement, pour moi son tour il est passé. Enfin, je crois pas du tout que Marine Le Pen elle sera présidentielle pour tout un tas de raisons. Déjà le nom, concrètement, ça pour moi ça c'est déjà
ça
un blocage fort. Ça reste un frein. Enfin, ça n'engage que moi encore une fois, mais franchement pour moi je pense que c'est un vrai frein.
D'accord.
Et puis elle est absente. Elle a montré plusieurs fois qu'elle est absente sur trop de sujets. Le côté économie, le côté RN, on n'en parle même plus tellement c'est abstrait. Les rapports par rapport à l'Europe également, le fait qu'on sort de l'Europe, mais en même temps on garde une cohésion européenne. Enfin, à un moment donné, il y a des trous dans la raquette qui sont énormes. Donc pour moi, Marine Le Pen gagnante, je crois pas une seconde.
Alors Antoine.
Et en plus,
c'était pour qu'Antoine vous réponde, parce que vous l'avez.
Moi j'entends les sondages, faut pas les croire. Alors quand les sondages donnent un score très bas, le candidat il dit mais non, je ferai plus. Et là quand ça donne un score très haut, on dit c'est pas la réalité. Bon, c'est quand même la première fois qu'un sondage donne Marine Le Pen gagnante. Et donc, même si je suis d'accord avec vous, l'élection est dans 3 ans, etc., le sondage, c'est quand même une projection à l'instant T. Si l'élection avait lieu dimanche, les Français feraient gagner Marine Le Pen. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc ce sondage a quand même une signification, oui, Johan.
C'est la carte postale de l'état d'esprit des Français en ce moment. Voilà.
Allez-y, Johan.
C'est pas une prévision.
Je suis pas,
une prédiction.
Alors, c'est là que je suis pas d'accord avec vous aussi, c'est que vous me dites c'est l'état, c'est, entre guillemets, c'est une image instantanée de l'état d'esprit des Français.
Ouais.
C'est faux. C'est faux. C'est un sondage. C'est-à-dire que c'est une partie des Français. Non,
mais, bon. Oui, mais Johan, excusez-moi, il y a des méthodes.
Allez-y, allez-y, finissez, Johan.
On va mettre en cause les sondages, c'est un autre débat.
Allez-y.
Non, non, mais excusez-moi, on va être clair. C'est pour ça que je dis que les sondages, il faut pas non plus trop les fantasmer. Que il y ait eu ce résultat, soit, peut-être. Mais encore une fois, c'est un sondage. Un sondage, moi, j'en fais tous les jours dans mon métier. Je fais des audits, je fais plein de choses comme ça. Vous savez pertinemment qu'à un moment donné, vous passez un message par là.
D'accord, mais après, excusez-moi, Johan, il y a une méthodologie dans les sondages. C'est pas les sondages WhatsApp qu'on fait entre copains. Il y a une méthodologie, ça a été fait par l'IFOP. Donc, je pense que l'IFOP sait faire des sondages politiques. Et ce qui est le plus intéressant dans ce sondage, c'est pas en soi, aujourd'hui, se passe. C'est la progression. Mmh. La progression depuis 2 ans, la progression depuis 5 ans. C'est la trajectoire qui est intéressante. La question, est-ce qu'elle sera élue dans 3 ans? Mais dans 3 ans, mes pauvres amis, on sait même pas où on sera. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est la progression. Voilà. Et est-ce qu'en face, quelque chose nous donne un indice qu'il pourrait y avoir une personnalité, une idée, une politique qui viendrait interrompre cette progression? Je le dis, non. Il n'y a personne en face aujourd'hui qui peut interrompre la progression du Rassemblement national.
Et je remercie Johan d'avoir été avec nous, Johan Delaude. On va continuer notre petit tour de France. On va aller cette fois-ci en Saône-et-Loire retrouver Fred. Bonjour Fred.
Ouais, salut les grandes gueules.
Vous faites quoi dans la vie, Fred?
Je suis pizzaïolo.
Pizzaïolo, cool. Alors, est-ce que le pizza loyo, il valide une pizza à l'ananas ou pas?
Non.
Non.
Non, Fred, vous resterez à l'antenne quand même.
Voilà. Merci, Fred.
Non, c'est pas possible ça, mais bon.
C'est pas un pizza yo-yo, hein, c'est un pizza.
Pizza yo-yo, ça a fourché, d'accord. Pizza yo-yo ananas.
Tata yo-yo, c'est pour
ça. C'est tata yo-yo parce que tu prends l'ananas.
Ouais. Bon, allez-y, Fred, revenons à Marine Le Pen. Alors, la reine, là, tiens, Marine Le Pen, la reine des sondages.
Non,
alors, qu'est-ce que vous en dites?
En fait, Barbara, elle m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais
désolé.
Mais non, mais en fait, moi, regardez. Ce matin, est-ce que vous avez entendu l'interview de Thibault Nombréal?
Tout à fait.
Oui, tout à fait.
Chez Apolline. Mais je veux dire, en fait, les deux choses, elles vont ensemble. En fait, le truc, c'est pas Marine Le Pen ou les sondages. C'est que la France, elle paraît, on est à l'ouest. Je veux dire, écouté l'interview, on est à l'ouest, totalement. Sur le sujet de sécurité, sur le terrorisme, surtout, on est complètement décalé.
Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un décalage entre le bilan que nous présente Gérald Darmanin et la réalité. Je pense que le bilan de Gérald Darmanin est très mauvais parce que les chiffres ne sont pas bons dans plein de domaines. Après, ça veut pas dire que c'est simple. Je sais pas qui pourrait régler le problème de la sécurité en France du jour au lendemain parce que c'est très compliqué. Mais c'est vrai que le bilan est très mauvais.
Ce qui veut dire pour vous, Fred, c'est la sécurité qui vous ferait voter éventuellement Rassemblement National, notamment?
Ouais, non mais je veux dire, oui, peu importe, mais je veux dire, on voit bien qu'il n'y a personne pour s'en occuper aujourd'hui. Vous voyez, on peut nous mentir, on peut nous dire, oui, vous inquiétez pas, on peut nous dire, tout ira bien, je veux dire, mais en fait, les Français, de plus en plus, et je veux dire, vous voyez, ça rejoint aussi le truc, avant la sécurité, c'était plus dans les grandes villes, maintenant, même dans les villes moyennes, même partout, je veux dire, plus personne, je veux dire, vous voyez, tout le monde peut être confronté, et est confronté à ça, de près ou de loin.
Oui, vous avez raison, Fred. D'autant qu'on a les chiffres qui montrent l'évolution du trafic de drogue dans les villes moyennes, à la campagne.
Les cambriolages aussi dans les villes.
Monsieur Antoine.
Je crois que sur tous les sujets, en fait, on se rend compte que tous ceux qui ont précédé Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même ont mené la même politique sans jamais renverser la table, décider de prendre les choses en main. Et sur l'échiquier politique, il n'y en a qu'une seule que les Français voient en mesure de renverser la table, en mesure de prendre en main les choses, en mesure d'arrêter de dire non, mais à cause de l'Union Européenne, on peut pas le faire, non, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'on pouvait pas le faire, etc. Et la seule, c'est Marine Le Pen. Et donc, je pense que les Français sont prêts de tous bords à dire non, mais maintenant, ça suffit. Il n'y a rien qui va sur aucun plan. On a besoin de renverser la table et seule Marine Le Pen pourra le faire.
Et quand elle sera là, elle ne renversera pas la table, elle fera comme les autres, elle mangera la gamelle, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, elle, c'est juste répéter, et Barbara a raison sur le truc, c'est que ça fait 10 piges qu'elle a compris que t'écoutes les Français, ils en ont tous marre de ceux qui les dirigent, qu'ils font tout à l'envers, que dans les vrais sujets, aujourd'hui, on te colle de l'immigration partout, on te dit tout le temps l'immigration, c'est inquiétant. Les Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, c'est positionné, justement, je pense que le pouvoir d'achat, elle fait progresser contrairement à ça.
Oui, mais sauf qu'elle a voté contre l'indexation du pouvoir d'achat. Non, mais à un moment donné, il faut les faire, c'est concret. Elle a voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation.
Parce que c'est une connerie d'indexer sur l'inflation, ça fait progresser l'inflation. Mais peut avoir un débat économique, mais sincèrement, oui, je pense que Marine Le Pen a très bien joué sur le pouvoir d'achat. Après, on est d'accord ou pas avec ses solutions, je suis d'accord, mais elle a très bien joué sur le pouvoir d'achat. Elle l'a senti assez vite que le pouvoir d'achat allait être la préoccupation majeure des Français. Et justement, Marine Le Pen, elle progresse. Exactement. Parce que sur l'immigration, tout le monde sait ce qu'elle pense. Donc, à mon avis, elle a plus de marge de progression sur l'immigration et la sécurité. Parce que de toute manière, sur ces sujets-là, elle paraît plus crédible pour les Français que les autres. En revanche, au pouvoir d'achat, c'était pas gagné. Parce que sur les sujets éco, parfois, quand même, le Front National nous a habitués à faire des virages à 360 degrés. Et là, elle a marqué des points.
Quand tu l'écoutes, c'est les socialos. Hein.
Le printemps 2021, les équipes de Marine Le Pen étaient en grande réflexion déjà sur l'orientation à donner à la campagne. Et ils ont très vite senti, parce que, excusez-moi, mais ils ont des capteurs. Ils n'avaient pas de députés à l'époque, mais ils avaient des capteurs. Ils ont compris que la question de pouvoir d'achat, les questions de niveau de vie, c'était très important. Et ils avaient bien entendu l'intention de s'exprimer sur les questions d'immigration. Et puis là a surgi le personnage Zemmour qui en a fait mais des tonnes, des caisses, et qui en a rajouté en plus avec des trucs d'identitarisme complètement saugrenus, qui a fait que Marine Le Pen a maintenu son cap. Alors qu'à un moment donné, il y avait même des gens au RN qui lui disaient « Attends, on est en train de se faire déborder par Zemmour », parce que je vous rappelle les sondages au début de Zemmour. Oui, c'est tout juste, il n'allait pas être au deuxième tour, le grand... Bon, voilà. Heureusement, il y a eu des gens suffisamment éclairés pour lui dire non, ne vous emballez pas, le Zemmour, ça va se dégonfler comme une baudruche, et c'est ce qui s'est passé. Et elle a eu la lucidité de ne pas écouter certains ORN qui lui disaient reviens sur tes sujets, reviens sur l'immigration. Elle a dit non, le sujet qui inquiète les Français, c'est le pouvoir d'achat, et je reste sur ma ligne, je ne dérogerai pas de ma ligne. Et elle a eu raison, puisqu'au final, alors, Zemmour s'est effondré et elle est allée jusqu'au deuxième tour. Donc, encore une fois, faut ne la prenez pas pour quelqu'un qui n'a pas le sens politique. Elle a un grand sens politique, et son tandem avec Bardella, croyez bien que c'est aussi toute une stratégie.
Alors, c'est un tandem qui peut se transformer aussi à un moment donné en...
Il a 26 ans, c'est pas tout de suite que ça va se transformer.
Je pense qu'il va y avoir des gens autour de lui qui vont lui souffler à l'oreille qui serait meilleur que la maman, et tu vas voir comment ça se finit.
Écoute, la Zemmour lui a soufflé à l'oreille à Bardella et il n'a pas écouté.
Barbara, c'est très bien en politique. À un moment donné, on tue le père.
Oui, la mère. Et là, on va tuer la mère.
Pour l'instant, le Rassemblement national est bien tenu. Et je crois-moi, il est tenu par Le Pen, les sœurs, etc. Donc non, moi, à mon avis, Bardella, il sait très bien ce qu'il leur doit, et c'est pas tout de suite qu'il va les trahir.
Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Mathilde. Alors, qu'en dites-vous? C'est un boulevard là pour Marine Le Pen, un boulevard vers l'Élysée?
Alors, moi, le problème, alors je vous dis ça, mais je vote Rassemblement national. Hein, donc, tout ce qui va se dire ensuite, faut bien le prendre en compte. Moi, le problème, c'est comme elle disait tout à l'heure, Barbara, c'est que c'est une histoire de trajectoire. La trajectoire pour Marine Le Pen, c'est toujours la même. Ça fait deux élections qu'on la vit. Mais après, il y a plein d'espoir. Et puis, paf Marine. Voilà, c'est toujours la même chose. Et paf Marine, pourquoi? Parce que c'est une très mauvaise oratrice. Elle est très mauvaise en débat. Hélas, face à quelqu'un d'un peu plus charismatique qu'elle, eh ben, elle fait flop. Pourtant, elle a des bons sujets. Je vous dis ça, je vote Rassemblement National, vraiment. Hein. Elle a des bons sujets. Je pense qu'en effet, le pouvoir d'achat, c'est la chose qui préoccupe tous les Français, même si l'insécurité aussi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que elle est mauvaise. Et elle sera mauvaise aux prochaines présidentielles. Ce sera la même chose parce qu'elle va être face à des gens comme elle l'a été vers Macron ou comme elle l'a été devant Attal qui sont de très bons orateurs. Donc la seule chance pour le Rassemblement national de passer au pouvoir, c'est d'avoir des gens comme Jordan Bardella. Parce que au niveau orateur, Jordan Bardella, et si tu le mets devant un Macron, il l'écrase. C'est ça le truc, parce que quand on regarde les anciens débats...
Vous êtes fan de Jordan Bardella et
non, ça, pas
mais là, moi je pense que Macron, on peut dire tout ce qu'on veut, il est très bon en débat, il l'a démontré.
Je pense qu'il aura
pour lui quand même l'expérience des dossiers que n'a pas encore Jordan Bardella. Jordan Bardella, il est très bon aussi, il progresse et il est même assez bluffant parce qu'il est jeune. Mais moi je m'aventurerai pas, enfin sur un débat Macron Bardella qui dure 2 heures. Le match n'est pas plié.
Il n'y a pas Macron. De toute façon, il n'y aura plus Macron en 2027. Macron, donc déjà, on aura peut-être mini Macron. Oui, on aura mini Macron.
Mathilde, ce qui veut dire pour vous, il vaudrait mieux quoi, un deuxième tour Bardella Attal, quoi, c'est ça?
Ah bah pour moi, oui, pour moi, Marine Le Pen, hélas, malgré qu'elle a des bons dossiers, des bons sujets et que ce soit une bonne politicienne, je le pense sincèrement, je pense qu'elle est trop mauvaise oratrice et qu'elle est peu charismatique pour avoir une place au pouvoir. Et c'est ça qui est triste en fait, mais c'est la réalité.
Et son âge ne pourrait pas être quand même à un moment donné un frein pour Bardella, trop jeune en 2027 pour accéder à l'Élysée?
Macron, excusez-moi, mais il était jeune. C'était quand même le président, il sera encore plus jeune.
Il sera encore plus jeune.
Oui,
Macron avait une expérience
ministérielle. Il avait été secrétaire général de l'Élysée. Il avait été ministre. Ouais. Donc bon, les gens lui donnaient crédit d'avoir une certaine expérience. Après, il avait jamais été élu. Jordan Bardella a été élu. Il est un militant de terrain depuis très longtemps, puisqu'il a commencé à 17 ans. Donc voilà, c'est
il
à lui.
Il aura 31 ans, Bardella.
C'est à Bardella d'écrire, entre guillemets, sa légende. Mais pour l'instant, il n'a pas l'expérience ministérielle du gouvernement.
C'est ce sondage où tu mets Attal en face de lui. Moi, je suis pas sûr qu'Attal, ça l'a dans 3 ans. Attal est Premier ministre, t'as vite fait de te brûler les ailes.
À mon avis, c'est ce qui va le cramer.
Donc, c'est sûr que si tu mets Darmanin, elle va faire 70%, Marine Le Pen. Mais si t'en mets un autre qui est un peu plus costaud, méfie-toi. Donc moi, je te dis franchement.
Marc Fesneau.
Bah, Édouard Philippe.
Marc Fesneau, ouais, il est pas mal.
Pour l'instant, le mieux placé, c'est quand même Édouard Philippe. Vous l'avez pas cité, pardon, mais c'est le mieux placé dans les
sondages. Ils sont à 50-50, là, si on se fie au sondage Valeurs Actuelles.
Si on la met face à François Bayrou, là, je pense qu'elle gagne. Elle gagne à plat de couture.
Au premier tour, peut-être.
Et, comme apparemment, François Bayrou refuse tout parce qu'il se prépare lui aussi au grand marathon. Alors,
oui,
là,
il n'a pas exclu 2024.
C'est le marathon des ambulateurs.
Merci Mathilde. Allez, on finit la discussion. On va regarder votre humeur à ce propos. 2027, on a posé la question sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen à l'Elysée, là, le sondage, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, 68-31, c'est le score face à Jean-Luc Mélenchon. 68-31, quasiment. C'est allez, dans un instant, on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sainz. On va notamment s'intéresser à 117 cadavres de chats retrouvés dans une maison de l'horreur dans le Var. Attends, ouais, tu dis c'est chaud. Il y a eu un signalement, les gendarmes et les associations, mais deux fois, hein, deux mois pour venir faire les contrôles. Ouais. Salah Abdeslam de retour en France, emprisonné à la prison de Réau. Est-ce qu'on s'en fout pas? Tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec Antoine Diers qui est avec nous, il est consultant auprès des entreprises, et Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie. On y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'hommage aux Invalides hier aux victimes françaises des attaques du 7 octobre et cette image qui fait réagir sur les réseaux sociaux, vidéo sur laquelle on voit le député Meir Habib, proche du pouvoir israélien, sermonner l'élu LFI Manuel Bompard avant une franche embrassade avec cette fois-ci le président du RN Jordan Bardella. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
On s'en fout, l'image parle d'elle-même.
Et Antoine?
On s'en fout pas.
Barbara?
Non, bon, déjà, tout le monde connaît les difficultés de Meir Habib avec le respect des protocoles et du protocole. Je crois qu'il y avait d'ailleurs.
Il faut préciser qui c'est Meir Habib.
Meir Habib, député des Français de l'étranger, député de. Ouais, mais de Turquie aussi, pas seulement. Enfin, moi, il s'occupe beaucoup d'Israël. On connaît Meir Habib. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui lui avaient demandé, dans la communauté notamment, de se tenir dignement, notamment de ne pas interpeller et de ne pas fustiger les LFI dans la cour des Invalides. Bon, évidemment, il n'écoute pas. Ensuite, qu'il fasse la bise à Bardella, je ne vois pas en quoi. Enfin, ça, enfin, en soi,
ça
il est député.
Ça dit pas quelque chose politiquement.
Ah si, ça dit quelque chose de politiquement. Voilà. Mais enfin, si il y a des gens qui ne comprennent pas que ça fait bien longtemps que dans la communauté juive, le vote bascule à droite, c'est un fait. Et dans les temps qui viennent, il ira sans doute aussi en partie au Rassemblement National. Mais ça, c'est la récolte de ce que l'islamo-gauchisme sème en France. Puisque je rappelle que depuis 20 ans, ce sont des islamistes qui ont tué des juifs en France. Ce ne sont pas des faves d'extrême droite que, heureusement, Marine Le Pen elle-même et toute la classe politique a réussi à mettre hors d'état de nuire. Et c'est fort heureux.
Oui, pas grand-chose à rajouter. Je pense que l'image parle d'elle-même. Les Juifs eux-mêmes savent que le Rassemblement National est un allié pour leur sécurité, que LFI est
un allié. Ça a changé quand même.
Et donc, comment?
Oui, ça a changé quand même.
C'est plus le FN, c'est plus Papy Le Pen.
Et donc, aujourd'hui, l'allié des Juifs, c'est bien le Rassemblement National pour leur sécurité en France. Et l'ennemi, c'est LFI. Et on le voit très bien.
Les GG, le transfert de Salah Abdeslam en France, à la prison de Réau en Seine-et-Marne, le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre, purgera donc ici le reste de sa peine à la perpétuité incompressible. Les avocats du terroriste dénoncent, eux, un passage en force. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Barbara?
On s'en fout pas.
Bruno?
En fait, moi, il y a deux choses qui m'animent. C'est, j'étais content que.
Je rappelle que tu es un rescapé du Bataclan.
Hein. Ouais, j'ai participé au procès. Hein, j'y étais quasiment tous les jours pendant les 10 mois. Moi, je suis content qu'il ait été jugé en France de cette façon-là, qu'il ait été défendu par des avocats brillants. Olivia Ronen et Martin Vett sont des avocats brillants et on peut comprendre ce qu'ils disent aujourd'hui parce qu'ils défendent toujours leurs clients. Moi, je trouve qu'il a pris une peine qui n'était pas adaptée parce qu'il a participé, mais c'était pas la tête du truc, hein. C'était juste un exécutant et un petit exécutant, et en plus tellement idiot que c'était même triste à voir ça, de faire mourir à cause de mecs aussi cons, mais bon, c'est comme ça. Mais en fait, ça c'est ma partie citoyen engagé, mais l'autre partie dit que j'en ai rien à foutre de ce qui peut lui arriver, en fait. Et moi, à un moment donné, j'avais même dit qu'ils peuvent tous crever, je m'en fous, quoi. C'est comme ça, et tant mieux qu'il fasse sa peine en France, et voilà, mais... En fait, cette personne-là, quand on l'a entendu au tribunal, on pensait qu'il allait quand même parler un peu parce qu'il a des choses à dire. Il a fait partie du complot et de cette bande avec son pote Abrini. Et on s'est dit, peut-être qu'ils pourront parler parce qu'ils savent. Eux, ils étaient au cœur de la machine, les autres sont tous morts. Il a rien dit, il a voulu faire le malin plusieurs fois pendant le procès. Les journalistes ont même nourri sa légende parce qu'il venait à chaque fois qu'il y allait parler. Il y avait la salle était pleine et quand il y avait, il parlait pas, il y avait personne quasiment. Il y avait nettement moins de monde. Il y avait que ceux qui étaient là tous les jours. Donc moi j'étais un peu, et en fait en sortant du procès je me dis que lui maintenant il sert plus à rien. Moi j'étais prêt à rencontrer des accusés, parce qu'il y en avait un ou deux qui avaient un vrai cursus politique, qui avaient une vraie parole politique, et je me demandais, parce que moi la question que je me pose toujours c'est comment tu bascules au monde d'un être humain normal à vouloir faire des trucs aussi dégueulasses et à les faire pour certains. Et en fait lui à un moment donné il a eu un peu de repenti, il s'est un peu excusé à la fin, puis à la fin le dernier jour, il s'excuse et puis après, il en rajoute une couche dans sa connerie. Donc en fait, donc aujourd'hui, ben ouais, qu'il fasse sa peine en France, en tout cas qu'il la fasse et qu'il la fasse jusqu'au bout, quoi. Puis c'est tout.
Barbara.
Mais bien sûr, cet homme-là n'a aucune dignité, aucune humanité. Il s'est comporté de façon absolument écœurante pendant le procès, avec ses espèces de silence hautain et sa tenue d'islamiste. Parce que excusez-moi, mais il avait bien la coupe de cheveux et tout ce qui allait avec. Donc une espèce de genre salaf de retour du désert. Bref. Ce type est à vomir. Et quand j'entends ces avocats qui, au lieu d'avancer des arguments de droit, viennent nous parler de dignité et d'humanité détention.
Ils sont dans leur rôle.
Non, mais alors je vais vous dire, je m'en fous de la dignité de la détention de Salah Abdeslam. Oui. Si ça n'avait tenu qu'à moi, au moment de son interpellation, il n'aurait pas pris une balle dans le pied, si tu veux.
D'accord, je suis d'accord, voilà. Ce qu'on a bien compris, que s'il était resté en Belgique, les conditions de détention étaient plus souples. Déjà, il était proche de sa famille. Il n'y a pas les peines incompressibles en Belgique.
Ah non, mais attends,
donc, il serait sans doute sorti. Alors qu'en France, ça sera plus compliqué, puisqu'il va faire quand même une vingtaine d'années de prison. Après, il sera libérable.
Non, c'est 30 ans.
J'attends de voir quel juge pourrait remettre en liberté Salah Abdeslam.
Mon cher, monsieur Salah Abdeslam va recevoir lui aussi des centaines de lettres de greluche complètement dingo.
Il trouvera l'amour.
Et il aura peut-être lui aussi, comme Nordal Lelandais, d'ici un an, le droit de passer un petit week-end et va savoir qu'il ne nous fera pas des petits Salah Abdeslam.
Alors, c'est vrai que la prison de Réo, c'est pas filmé 24 heures sur 24.
Non, mais maintenant, quoi.
Heureusement.
Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je suis surtout rassuré, entre guillemets, qu'il soit gardé désormais en France, parce que la justice belge est particulièrement laxiste, et j'ai même longtemps été outré de la façon dont la Belgique a pu protéger cet homme. Je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais moi, si je suis un partenaire, un allié d'un pays qui subit un attentat comme on l'a vécu, je remets immédiatement au pays allié les auteurs de l'attentat. Donc j'ai été étonné de la position de la Belgique.
Jugé, il a purgé une peine aussi pour les attentats de Bruxelles,
oui,
c'est pour ça qu'il était en Belgique.
Oui, mais il avait été prêté, il devait être rendu. Et il y a eu une décision qui a stoppé le processus.
Tout à fait.
D'accord.
On enchaîne.
Les GG, on l'appelle déjà la maison de l'horreur, maison où 117 cadavres de chats ont été découverts, enterrés ou congelés. On est dans les Alpes-Maritimes, à la Roquette-sur-Siagne, exactement. 38 chats vivants, mais malades, ont aussi été prise en charge. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, évidemment.
Bruno?
Non, pas du tout.
Antoine?
On s'en fout pas.
Alors simplement, le propriétaire est un homme de 66 ans, il vit seul, aucun antécédent judiciaire, mais il semblerait qu'il souffre d'une situation psychologique un peu fragile. Barbara, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Il y avait faut rappeler, tu as lu l'article, il y a eu un signalement à cause des odeurs pestilentielles. Parce que c'est soi-disant dans une villa qui en fait est un mobil-home. Les voisins n'en pouvaient plus des odeurs. Le monsieur était assez irascible. Et entre le moment où il y a eu le signalement des odeurs et la venue des associations et des gendarmes, il y a eu...
2 mois.
Barbara.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice qui va passer. Parce que vous verrez il aura rien. Il aura du sursis parce que la vie d'un animal n'a pas de valeur, d'accord ? L'animal n'est toujours pas un sujet de droit. Les 11 cadavres, c'est comme si c'était 11 objets, voilà. C'est pas 11 vies, alors que pour moi, c'est 11 vies. Qu'est-ce qu'il faisait à garder des cadavres de chats, ce type-là ? Alors moi, j'en ai rien à faire de ces troubles psychologiques. Moi, ce serait, pour moi, hein, mais bon, moi, je suis complètement zinzin, sans doute. Moi, il ferait de la tôle et de la prison ferme. Et peut-être même que je le mettrais en colocation avec Nordal Lelandais. Les amis.
Bruno ?
Bah, ouais, enfin, c'est effarant quand même d'arriver à ça. Après, des histoires comme ça, t'en rencontres souvent. Tu sais, souvent dans les journaux de quartier, tu t'apprends que t'as un mec qui a empoisonné 60 chats autour de lui. Enfin, tu vois, c'est dingue un peu ce truc-là. C'est la. Et tu te dis que des gens qui font ça, des animaux pourraient peut-être le faire à des êtres humains, donc il va falloir quand même qu'on fasse attention. Je pense que la psychiatrie, on n'arrête pas de dire que la psychiatrie en France est vraiment le parent pauvre de la médecine, mais il va falloir quand même qu'on renforce ça, parce que il y a tellement de personnes qui sont en liberté et qui sont capables de faire des trucs terribles, et c'est des animaux, mais c'est aussi des êtres humains et des êtres vivants, en plus des animaux, donc faisons attention quand même à ça. Hein.
Antoine, le bien-être animal, c'est essentiel. Pour un certain nombre d'espèces spécifiques, les éleveurs, les propriétaires doivent obtenir des certificats de capacité. Donc, l'administration vérifie la bonne capacité d'une personne à détenir tel ou tel animal. Ben, je pense qu'on doit peut-être se poser la question de savoir si tout le monde est apte à avoir un animal de compagnie. Et est-ce qu'on doit se poser la question?
Et non, au-delà de ça, parce qu'on est dans la requête sur Seine, c'est une petite commune.
À moitié SDF,
oui. Ou je sais pas. Je reste persuadé que la détention d'un animal
c'est vrai que la
pourrait faire l'objet d'un certificat de capacité pour tout le monde. Et donc, tout le monde ne doit pas être autorisé à détenir un animal. Mais ça peut aller très loin, ce genre de logique. C'est que avoir un enfant aussi, c'est une responsabilité immense. C'est une responsabilité encore au-dessus. Est-ce que on doit autoriser ou non à avoir un enfant ? Donc, c'est tout le sujet du bien-être animal, de comment on autorise ou non les gens à posséder un animal.
Je rappelle qu'au Sénat, il y a des sénateurs, et qui sont d'ailleurs des sénateurs LR, qui s'intéressent à ce sujet de ce qu'on appelle « one violence », c'est-à-dire la violence au sens large du terme, parce qu'on a remarqué pour tous les juges des enfants et les juges qui s'occupent des affaires familiales, il y a des corrélations entre les maltraitances animales dans certaines familles et les maltraitances sur les enfants.
Ouais, mais au Sénat, ils n'ont pas le temps, ils sont fermés, ils font la
tête. Vous avez des sénateurs qui participent à des colloques et qui essaient de faire avancer cette idée qu'il faut absolument parfois joindre les dossiers de maltraitance animale avec les dossiers de maltraitance intrafamiliale, parce qu'il y a des corrélations très nettes qui sont posées.
Juste les GG sur les chefs d'accusation qui ont été retenu, il sera jugé en juin prochain par le tribunal correctionnel. Délit d'abandon volontaire, privation de soins d'un animal domestique apprivoisé. En revanche, il n'a pas été poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal. C'est donc effectivement,
il aura du sursis, une petite amende de rien du tout qu'il pourra pas payer. Il aura du sursis. Aujourd'hui, tous les procès, et je les suis, c'est extrêmement rare d'avoir de la prison ferme. Il n'y en a quasiment pas. Vous avez des adolescentes qui maltraitent des animaux, qui les jettent du haut d'une fenêtre. Allez hop.
Et qui suivent sur les réseaux sociaux.
Oui, rappel à la loi, puis c'est tout. Mais moi, je suis désolée. C'est des gamines qu'il faut suivre. Et il va falloir sérieusement les suivre très longtemps. Parce que ça montre un déséquilibre et une totale absence d'empathie vis-à-vis d'un être vivant. Et demain, ça peut être un être humain. C'est les mêmes que vous retrouvez dans des caves qui ensuite viennent se taper dessus. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on ne donne pas de la prison ferme et des choses extrêmement dures vis-à-vis de la maltraitance animale. C'est une façon, encore une fois, de considérer l'animal comme un objet. Ça me révolte.
Mais pendant ce temps-là, tu as un certain nombre d'éleveurs, de possesseurs d'animaux spécifiques qui craignent tous les jours la visite de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui débarque avec des flingues.
Il y a un vrai décalage
entre certains animaux d'élevage, etc., qui sont hyper contrôlés et les animaux domestiques.
Les élevages de lapins, quand on les contrôle et qu'on les trouve en cage et que L214 fait des vidéos, c'est L214.
Je dis que moi, je connais des éleveurs, notamment d'oiseaux, qui vivent dans la crainte de venir se voir reprocher le fait de ne pas avoir respecté telle loi alors que l'animal va très bien.
Des aigles.
Non, mais tous les oiseaux, t'as des canards d'ornementation, etc. T'as un certain nombre de choses comme ça. Et ils sont, eux, hyper contrôlés.
Moi, ce qui m'étonne
canards,
surtout dans cette affaire, c'est qu'on est.
Elle est contre l'élevage.
Les
animaux vivent en liberté. Parce que les vaches, si elles sont en liberté, il n'y en aura plus.
Vous avez énervé Barbara, c'est fou.
Sur le fond, elle a raison, pardon.
Mais si tu
énerves les vaches, j'ai plus de. Je n'ai pas parlé des vaches. Je parle des oiseaux. Je ne vois pas bien quel est l'intérêt d'aller. Enfin, je sais aussi. aussi qu'il y en a qui élèvent précisément des oiseaux pour ensuite les lâcher pour que les chasseurs aient l'impression d'avoir chassé un animal sauvage. La et blague.
Tu parles de la guélinette cendrée, là.
Oui, pas seulement.
T'as plein d'espèces d'animaux qui n'existeraient plus s'ils n'étaient pas protégés, reproduits par l'homme, etc.
Le gerbier n'existerait plus.
C'est vrai que le gerbier se terrerait sous les tables.
Mais le vrai scandale, c'est les chats. C'est les chats qui sont responsables de la distribution, de la disparition.
On en a parlé ici, je suis pour la stérilisation des chats et l'aide à la stérilisation.
Mais c'est pas la question de la stérilisation. C'est que ce sont
pour la stérilisation des éleveurs, tu m'as dit.
Non, mais Barbara, ce sont des félins domestiques qui ne devraient pas être en liberté. C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas pouvoir sortir des maisons, les chats. Les chats.
Mais les chats, ils sont stérilisés, ils ont le droit de sortir. Mais heureusement, ils vivent leur plus belle vie.
C'est pas une question de stérilisation. Combien d'oiseaux vont-ils bouffer la nuit quand elles vont sortir?
Ça va pas, je vais pas garder mon chat à l'intérieur. Mais le chat, il est fait pour vivre à l'extérieur.
C'est pas bon pour la biodiversité.
C'est pourquoi je te dis qu'il faut réguler la population de chats. Mais une fois qu'on aura régulé la population de chats, ils seront beaucoup moins prédateurs. Et puis je vais te dire.
Un chat, c'est un animal domestique qui doit rester à l'intérieur.
Non, alors le chat n'est pas un animal domestique, tu n'y connais rien du tout. C'est un animal sauvage. C'est un animal sauvage vaguement apprivoisé.
Alors, fais attention.
Tu relâches un chat, il va se débrouillé.
Il faut un certificat de capacité pour le détenir, si c'est un animal sauvage.
Et donc,
j'ai pas de soucis.
Antoine s'est trompé, il attaquait les animaux, mec, fallait.
Mais j'ai pas.
Il a fait une erreur. Antoine, on t'a pas prévenu.
Je n'ai pas attaqué les animaux. J'ai fait part d'une réalité. Les chats aujourd'hui butent des centaines de milliers d'oiseaux chaque année.
On vient d'apprendre que nous sommes sur la pire trajectoire de réchauffement climatique. Donc je vais te dire, je reste convaincu que l'espèce la plus nuisible, ça reste Homo sapiens.
Donc les élections dans 3 ans, tout le monde s'en fout, ça tous mourir.
Une dernière chose à vous signaler, puisque là, on va faire une petite pause avant de revenir dans les GG, parler du remaniement gouvernemental et du piratage des données de 33 millions de Français. C'est pendant la pause, vous savez qu'on a les petits indiscrets podcasts qui sont glanés par Anaïs Sainz, notre productrice. Et justement, les podcasts, ça vous plaît justement, les petites indiscrétions quand on déverrouille les portables des GG, puisque les podcasts des grandes gueules sont en hausse, plus 10%, 2 800 000 téléchargements, 10% en un mois. Donc les podcasts, vous les retrouvez sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Allez, à tout de suite pour les deux prochaines heures des grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.